Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Aujourd'hui, on a un sujet qui nous a été proposé par un auditeur. Donc, comme c'est un sujet qui est très vaste et qui nous intriguait, on a accepté d'en parler. Aujourd'hui, Evelyne, de quoi on parle?
Les Vikings qui reviennent toujours dans l'actualité. Les gens les aiment bien, ces Vikings. Donc, je pense que c'était un sujet populaire, même si ça nous a été demandé par une seule personne, je me doute qu'il y en a beaucoup qui veulent entendre parler des Vikings.
Ben vraiment, on dirait moi les Vikings, c'est très large, puis j'ai de la misère à situer, j'ai de la misère à isoler un Viking que je connais. Moi dans ma tête, un Viking, ça a juste comme les cornes, tu sais, le chapeau.
C'est pas vrai.
Bon, ben tu vois, fait que je sais rien finalement, je sais rien des Vikings. Non, mais les bateaux aussi, là, les drakkars. Ça c'est vrai, ça a existé.
Oui, bien que le terme ait été utilisé très tardivement, eux les appelaient pas comme ça, mais l'idée du bateau, du drakkar, oui. Donc, si vous pensez entre autres au navire d'Osberg, qui est le modèle qu'on a, qui est exposé en Norvège, là, au musée d'Oslo, c'est l'archétype qu'on pourrait dire là, du navire viking. Mais t'avais pas de dessin animé avec des petits vikings, t'avais rien?
Ben, on dirait que... Tu sais, c'est ça, moi dans ma tête, là, c'était les trois. C'était, ben là, tu viens de m'apprendre que le chapeau, c'était pas vrai, mais le chapeau, le drakkar, puis les pays scandinaves. Tu sais, dans ma tête, moi, c'est comme ça. Quand je pense aux Vikings, mais on dirait... Puis tu sais, puissant, là. Dans ma tête, c'est tous des gros gars musclés qui crient, puis qui ont pas de façon, puis qui boivent de la bière dans des cornes. Tu sais, comme...
C'est comme... OK, tu mélanges à peu près toutes les séries de fantasy.
Ben, c'est ça.
Pseudo-médiéval-ish.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est tout un amalgame, parce que j'ai réalisé, dans le fond, que ce que je connais des Vikings, c'est que ce que j'ai vu dans la culture populaire, tu sais, fait que je me suis jamais vraiment intéressée, puis tu sais, je pense que c'est Astérix, ce que je connais le plus des Vikings. Ils ont pas des Vikings, un moment donné, dans Astérix? Astérix et les Vikings, ça existe-tu? Ou je viens d'inventer ça? En tout cas, on va faire nos recherches, là, mais me semble que j'ai un souvenir d'Astérix et les Vikings. Mais tu vois, fait que c'est très flou pour moi. C'est quoi? Puis il me semble qu'il y en a eu à Terre-Neuve aussi.
Oui, bon, c'est ça, je me disais,
regarde, elle
me sort pas l'ensomédose, comment
non,
ça,
non,
David?
Non, il y en a eu à Terre-Neuve, puis oui. Je le sais aussi que dans l'actualité, ils sont ultra présents, parce que j'ai l'impression que depuis 5 ans, il y a 1 million de découvertes qui ont été faites sur les Vikings. Fait que voici où j'en suis, mais je suis pas une professionnelle, on va se le dire.
Ben, c'est un peu dur d'être professionnel des Vikings, honnêtement, parce que les sources écrites sont pas si nombreuses que ça. Puis notre défaut, c'est souvent que les sources qu'on a sont des sources qui sont anglo-chrétiennes, donc vues par des chrétiens, par des Britanniques beaucoup, qui en auront pas une perception très positive. Fait que c'est sûr.
Ou qui ont été diabolisés au bout, là.
C'est ça. Fait qu'on va en faire le fameux monstre, justement. Les cornes, c'est pas pour rien. Il y a un côté un peu satanique qui arrive avec tout ça. La grosse brute qui détruit tout sur son passage. Bon, ça, c'est peut-être pas si faux que ça, mais c'est pas tout le temps non plus. C'est qu'on va créer justement une espèce de cliché, mais c'est souvent ça dans l'histoire, c'est que quand les récits écrits sont souvent concentrés d'un côté de l'histoire et pas de l'autre, parce que les Vikings, oui, avaient des runes pour écrire, mais ils écrivaient très très peu, ils nous ont pas laissé beaucoup de témoignages, ben ça fait en sorte qu'il nous manque un côté de l'histoire et la personne qui est volée, pillée, massacrée, tuée par les Vikings ne nous laissera pas un témoignage très positif, un peu comme les Romains quand on tombe dans les textes bibliques et autres, on n'en fait pas un portrait qui est très réjouissant, qu'il faut donc nuancer quand on fait de l'histoire. Mais c'est un peu la raison, je te dirais, pourquoi il y a autant de fouilles archéologiques. C'est un peu à l'instar des Gaulois. C'est qu'on s'est rendu compte que on avait accepté pendant longtemps des visions très occidentales, chrétienno-centristes, qui déformaient la réalité et que ça ne coïncidait pas avec les fouilles archéologiques. Donc, je te dirais que c'est pas mal similaire avec ce qui se passe du côté de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, pour les populations celtiques ou ce qu'on peut appeler aussi l'ancienne Gaule. Mais le facteur qui se rajoute, c'est les changements climatiques. Donc, il y a une urgence, en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de fouilles archéologiques qui sont faites, entre autres, du côté de la Norvège, dans le nord de la Suède, et au Groenland, où ils ont fini par avoir une colonie qui n'a pas duré longtemps. Mais le Groenland, ça va pas bien avec les changements climatiques. Et on a peur qu'avec la fonte de la glace, fonte du pergélisol dans certains secteurs, bien, il y a des artefacts qui, aussitôt qu'ils vont être en contact avec l'air, on va perdre ça en quelques secondes. Ah, ça va être terriblement rapide. Tout ce qui est matière organique, que ce soit des corps, que ce soit du cuir, et on espère toujours trouver un peu comment ils travaillaient le cuir. On n'a pas beaucoup de cuir, en fait, parce que ça se décompose facilement, mais la glace peut préserver ça. Donc, les textiles et tout ça, c'est super rare. Donc, là, c'est pour ça qu'il y a des fouilles, je te dirais, plus urgentes. Il y a un investissement qui est fait. Oui, il y a un intérêt populaire, là, mais c'est surtout parce que dans ces pays-là, les changements climatiques s'accélèrent. Les glaciers fondent. La Norvège, c'est incroyable. Il y a beaucoup de glaciers qui ont fondu beaucoup. Il s'est trouvé tellement d'objets, pas juste vikings, mais du néolithique, de la préhistoire et tout ça, là, des lances. Et il faut sortir ça le plus rapidement possible parce qu'aussitôt que c'est en contact avec l'air, bien, ça va se désagréger. Des fois, c'est une question de minutes. Hein. Le bois, le cuir, des fois le métal, quand il y a ce choc, en fait, de l'air, alors qu'ils ont toujours été protégés de l'air, des bactéries, etc., ben, ça peut se désagréger là, à une vitesse complètement folle. On a vécu d'ailleurs à Québec, ça, sur le site de Cap-Rouge, où Jacques Cartier a fait son espèce de colonie. Le site Cartier-Robertval, qui est notre plus ancien site, en fait, je dirais, archéologique non autochtone, mais où il y avait quand même une présence autochtone, mais où Cartier s'est établi avec Robertval pour essayer de trouver, entre autres, des métaux, mais essayer de cohabiter avec les autochtones aussi. C'est parce qu'on avait trouvé différents objets, mais une cotte de maille, et ça, c'est très rare, une cotte de maille de l'époque de Jacques Cartier, là, tu sais, pour l'Amérique du Nord, c'est comme « Wouah! » Puis quand ils l'ont sortie, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour la protéger. Malheureusement, ça n'a pas été long. Il en reste quelques mailles, mais elle s'est toute désagrégée, donc ça fait partie là, de la réalité. Donc, voilà un peu pourquoi. Faisons notre Indiana Jones. Il y a peut-être une omniprésence des vikings dans l'actualité archéologique, si vous me suivez sur Twitter et tout ça, c'est vrai qu'ils sont souvent là, mais c'est ce qui l'explique. L'autre tangente, c'est une volonté, comme je disais, de réécrire l'histoire sans passer par le point de vue, je dirais, réducteur qu'on a eu pendant longtemps dans les archives anglo-chrétiennes. Il y a aussi le fait que pendant longtemps, ben parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour étudier l'ADN, etc., on a négligé peut-être le facteur des femmes. Alors, il y a ça aussi qui entre en compte dans cette espèce de popularité des Vikings, liée à une série télé, oui, aussi, ça aide pour le public à s'y intéresser, mais du point de vue des scientifiques, pourtant, ça vient d'ailleurs, en fait. C'est ça que je veux expliquer. C'est pas la série Viking qui a fait que les archéologues se sont dit « Hey, tiens, fouillons sur les Vikings! » Non, tu sais, ça marche pas de même.
Mais les Vikings, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore des peuples vikings ou ça n'existe plus du tout?
Non, c'est sûr que quand tu regardes l'histoire des pays scandinaves et tout ça, bon, avec les études génétiques qui ont été faites, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont du sang viking, de descendants vikings, que ce soit en Normandie, si on s'en va dans le Yorkshire en Angleterre, York, c'était un bastion viking. Il y a encore beaucoup de legs des vikings. C'est sûr que les sangs se sont mélangés, mais les gens ont aussi sont aussi descendants des fois d'anglo-saxons. Tu sais, c'est un peu plus varié et diversifié que juste 100% viking, ça c'est sûr que ça n'existe plus là, à proprement parler. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui, entre autres en Suède, en Norvège et tout ça, sont clairement des descendants de vikings. Mais donc même en France, en Normandie, on a des gens qui ont une partie de leur bagage génétique qui pourrait être viking.
Essayons de faire l'histoire des vikings, là, en disant ça, j'ai déjà chaud, mais...
Pourquoi?
Mais parce que j'ai l'impression que c'est tellement énorme, tu sais, c'est genre un épisode qui va durer 8 heures.
C'est sûr qu'on pourrait en faire des très très longs sujets. Souvent, c'est souvent le défaut d'ailleurs quand on fait des chroniques là-dessus à la radio parce que les gens nous disent « Mais vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça », mais c'est comme c'est impossible. Tu sais, quand on est déjà chanceux, que ce soit aujourd'hui l'histoire ou moi, dessine-moi dimanche, qu'on a déjà 10, 12, 15 minutes, dépendant des émissions, déjà des choyés, des ondes, là, je veux dire, quand on a ça, mais encore là, c'est vraiment pas assez pour faire un portrait qui est juste. Donc, ne t'en fais pas, c'est normal, okay, je n'y arrive pas.
Pression moins.
Nous aussi. Bon, allons-y là où on a envie d'aller, ou toi, t'as peut-être envie d'aller aussi.
En fait, ma première question, ce serait où ils se situent géographiquement, puis quand est-ce qu'ils ont vécu? On va commencer par la base, là.
Géographiquement parlant, c'est sûr que le cœur des populations vikings ou pré-vikings, c'est vraiment la Scandinavie. La Norvège, la Suède sont pas mal, je dirais, les berceaux des populations qui vont donner naissance à ceux qu'on va appeler les vikings. S'ajoute ensuite le Danemark, qui arrive peut-être un tantinet plus tard du point de vue chronologique. Donc ça, c'est vraiment le cœur. C'est de là qu'ils sont nés, c'est là qu'ils vont commencer à se s'organiser en communauté, à vivre en village. On est donc en Scandinavie avec un peu les mêmes réalités que le Québec. Ça veut dire qu'on a quand même une période agricole qui est beaucoup plus courte qu'ailleurs. On vit des problèmes d'ensoleillement, des hivers qui peuvent être très durs, très rigoureux. Ce qui force ces gens-là très rapidement à chercher des moyens de pouvoir assurer leur survie pendant les mois d'hiver. Et c'est ce qui fait qu'ils vont très vite commencer à bouger et à faire du commerce. Ils vont faire un peu des FedEx de l'Antiquité, en ce sens où ils vont assurer, grâce à leur technique de navigation, des liaisons commerciales qui vont aller très, très loin, parce qu'ils vont commercer jusqu'avec les populations arabes, donc des côtes de Turquie, tout ça, oui, voilà. Mais donc, c'est un peu cette pression climatique, les conditions géographiques et climatiques de ces régions-là qui font faire naître un peu ces navigateurs qui vont devenir des commerçants, mais pour avoir des objets à commercer, à échanger, avoir ce qu'il faut, eux, pour survivre pendant l'hiver, ça va amener aussi des pillages, des raids qui peuvent être particulièrement violents. Venant d'une population qui, elle, quand on arrive, dans les années, disons, juste avant qu'on les voit arriver, si on arrive dans les années 500-600 de notre ère.
Pré-viking.
Le pré-viking. On va appeler ça le pré-viking. Quand on arrive dans ces époques-là, c'est le début, on parle des anglo-saxons du côté de l'Angleterre, c'est l'époque où, après la chute de l'Empire romain d'Occident, donc quand Rome tombe aux mains des populations dites barbares, l'Occident, très vaste, est entre déchiré de diverses luttes, de différents clans, différentes tribus, d'un peu partout. Et à un moment donné, il y en a qui réussissent à s'établir sur des territoires, puis à y rester, à faire des royaumes ou à avoir au moins une espèce de mainmise sur le territoire. Donc, quand on parle des Anglos, des Angles et des Saxons en Angleterre, c'est un peu ce qui se passe à ce moment-là. Si on s'en va du côté de la France, il y en a qui connaissent un peu Clovis et tout ça. La Francie va se mettre en place. On est avant Charlemagne, toutefois, pour l'instant. Mais Charlemagne va avoir un lien avec ses petits vikings. Du côté de la Scandinavie, ces populations dites pré-vikings, vont commencer à s'établir, à faire des villages, à rester dans ces secteurs-là. Mais donc, si on compare à la France ou à l'Angleterre ou à l'Espagne, où on va avoir en fait les Visigoths qui vont s'établir et tout ça, ils ont donc un enjeu climatique que les autres n'ont pas, qui fait en sorte que la survie alimentaire annuelle est un petit peu plus ténu qu'ailleurs. Et donc, ça semble être la raison pour laquelle ils vont mieux s'organiser. Sans parler de fédération tout de suite, ils vont commencer à s'aider, ils vont s'organiser autant pour les travaux au champ, les travaux agricoles, que pour essayer d'avoir des ressources pour tenir pendant toute une année. Et
parce
voilà,
que c'était donc pas juste des guerriers, là. Tu sais, il y avait...
Tout, c'est des agriculteurs. C'est des agriculteurs dans ces terres-là. Il y a les guerriers, mais il y a surtout la survie qui est au cœur de tout ça. Et c'est une survie alimentaire, on se le cache pas. Donc, il suffit d'un hiver terriblement rigoureux puis qui est long, un printemps tardif puis un été qui est merdique où il pleut tout le temps. C'est un peu comme nous, ça vient mettre une pression. Puis là, on n'est pas à un moment où on peut juste faire venir des trucs de la Californie. T'sais, on n'est pas du tout dans cette situation-là de mondialisation. C'est sûr que très rapidement, ils ont cherché des moyens de s'en sortir. Et ce qui les caractérise, surtout donc pour l'instant, Norvège, Suède, Danemark, avant qu'ils bougent de ces territoires-là, parce qu'ils vont bouger. On va les voir commencer à bouger au 8e siècle, donc à la fin des années 790, là, ils vont commencer à se répandre un petit peu, c'est qu'ils vont chercher des zones où ils vont pouvoir établir des lieux de commerce et où ils vont peut-être pouvoir aussi avoir des zones géographiques où c'est plus facile d'envoyer des bateaux vers justement des régions un peu plus éloignées de la Scandinavie. C'est comme ça qu'on va les voir arriver. Mais comme ils ont besoin de produits à commercer, ils vont très rapidement aller vers les raids, donc des attaques éclairs express très violentes où ils prennent tout sur leur passage, tout ce qui est métallique, l'or, l'argent, etc. Et l'objectif, c'est pas de le garder pour eux, c'est de vendre ça ou d'échanger ça à d'autres peuples qui, en échange, vont leur fournir des céréales, vont leur fournir des denrées alimentaires et d'autres types de produits. C'est pour ça que je les appelle un peu les FedEx, qui font un petit peu un service de messagerie finalement, qui va aller bien au-delà de la mer Méditerranée, on va juste dire les mers de Scandinavie, mais les zones en fait maritimes de Scandinavie. Et dans ce contexte-là, c'est sûr qu'ils deviennent un peu les méchants parce qu'ils ont une particularité aussi, c'est que à la chute de l'Empire romain d'Occident, qu'est-ce qui l'emporte en Europe? Qu'est-ce qui remplace en fait l'empereur? Les gens sont secoués. Il faut comprendre que ce qu'on appelle l'Occident ou l'Europe à la chute de l'Empire romain d'Occident, le choc, c'est qu'on n'a plus de protecteur. L'empereur est plus là pour nous protéger. Rome est tombée aux mains des populations barbares. Rome, quand on arrive dans les années 500 et au-delà, est passée d'une ville qui, à un moment donné, avait 1,5 million d'habitants, puis on est rendu à 25 000 habitants. Là, c'est une dépopulation totale. Les gens fuient. Et ces populations barbares-là ne savent pas entretenir les aqueducs, ne savent pas entretenir les infrastructures. Donc, tout s'effondre, en fait. Mais qu'est-ce qui sauve les gens qui sont complètement pris au dépourvu, ben c'est le fait que l'Empire était maintenant chrétien et c'est l'Église qui prend le pas. C'est pas pour rien que le Vatican est à Rome, c'est pas pour rien que le pape, et même quand on regarde comment l'Église divise un peu en diocèse, utilise des termes que les Romains utilisaient, mais à d'autres usages comme des liturgies, ben pour les Romains, c'était des services à l'État obligatoires. La liturgie est autre chose dans l'Église. Ce vocabulaire-là est repris, c'est pas pour rien. Donc, on est très, très pieux et souvent, il y a beaucoup de populations dites barbares qui ont été très vite christianisées. En Espagne, là, les Visigoths, ça n'a pas été très long, là. La Scandinavie n'est pas touchée par cette bonne nouvelle chrétienne, contrairement à l'Irlande, à l'Écosse, à l'Espagne, à la France, à tous ces territoires-là, à ce qui va devenir l'Angleterre, etc. Ce qui fait que ces gens-là ont leur propre mythologie, une religion qui valorise l'homme fort, qui valorise le guerrier, qui, quand on est un grand guerrier, ben notre mort, on va aller vers cette espèce de paradis qui est le Valhalla sur notre bateau et tout ça. Ce qui fait qu'eux, pillés des monastères, ils s'en contrefichent.
Il n'y a pas de conséquences à ça, là.
Bingo! Je ne sais pas si je te mets bien le contexte géographique, chronologique et, je dirais, contexte religieux, culturel en place, là.
Oui, j'ai bien compris.
Je t'aide, d'accord. C'est dans ce contexte-là, ma chère, qu'en 793, les Vikings entrent dans l'histoire écrite. Alors, non pas dans les données archéologiques, mais dans l'histoire écrite, parce qu'ils vont faire un premier raid express en Angleterre sur le site d'un monastère qu'on appelle Lindisfarne, et on va écrire là-dessus, on va les décrire. Et là, on va dire ils sont arrivés par l'eau, ils ont laissé leur bateau dans le sable, et ils sont arrivés, ils ont tout détruit sur leur passage, ils ont tué les moines sans se poser vraiment de questions. Ce sont des grosses brutes sanguinaires. On sait qu'ils arrivent, donc, de ce qu'on, nous, on va appeler aujourd'hui la Scandinavie. Et là, le mot viking va commencer par la suite à être utilisé.
Qu'est-ce que ça veut dire viking?
On se demande est-ce que ça vient du mot vik ou vikinger, parce que vikinger aurait voulu dire dans leur langue expédition en mer, ce qui aurait pu leur aller, mais vik aussi ça peut dire un marché. Et en langue arabe, la racine vik peut vouloir dire aussi des rameurs. Alors, c'est là où on est un petit peu pris au dépourvu. Est-ce que ça veut dire que ce sont des navigateurs, des rameurs, ou ce sont peut-être plus des marchands? Enfin, ils sont les deux. Alors, on n'est pas capable...
Mais c'est pas des ben bons marchands, là. Quel genre de marchand va juste tuer tout le monde?
Ils vont être excellents.
Ils vont être excellents quand c'est le temps de vendre, là, mais pas quand c'est le temps d'acheter de la marchandise.
Okay? Non, là, ben, de toute façon, t'es pas dans des économies monétaires, hein? Encore non plus. Tu sais, je veux dire, l'Empire romain n'existe plus. C'est toutes des populations isolées. On est revenu au bon vieux troc, là. Oui, oui, clairement. Où c'est justement les métaux de valeur, certains produits comme de l'ambre de la Baltique ou des fourrures ou des choses comme ça qui vont avoir une valeur d'échange, mais on n'a pas de système monétaire vraiment quand ils arrivent en Angleterre. Là, ça, c'est pas vraiment rétabli parce que c'est le tout début des premiers royaumes médiévaux qui vont commencer à se mettre en place à partir du 8e siècle. Tu sais, c'est long, là. C'est pas...
Mais revenons à 793. Donc, ils ont attaqué tout le monde, ils ont tué des moines, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, sont repartis. Merci, à la prochaine.
Et voilà! Et c'est ce qu'on appelle des raids. Donc, c'est une attaque express. Ils prennent ce qu'ils veulent, puis après ça, ben ils disparaissent. Dans le fond, ils ne s'intéressent pas à rester sur place. Pour l'instant, ce n'est pas ça qu'ils ont en tête. Ce qu'ils veulent, c'est les richesses. Puis eux, que ce soit un monastère sacré, puis qu'ils vont aller en enfer, ils sont comme... Come on, je viens de montrer ma puissance de guerrier, je m'en vais au paradis, moi. Donc, on n'a pas la même vision, nécessairement, des choses à ce moment-là. Avec nos Vikings, mais c'est comme ça qu'ils entrent dans l'histoire écrite. Et que là, on va commencer à avoir une idée un petit peu de qui ils sont, parce que on va essayer de les comprendre. Ça veut dire que là, il y a quand même des textes qui vont essayer, surtout en Angleterre, de dire, ben, c'est qui ces gens-là? C'est comme ça qu'on va savoir que ce sont des clans, que la vie de base, c'est l'agriculture. Et ça, l'archéologie va finir par démontrer qu'en fait, un peu comme les Gaulois, ça reste que l'agriculture est la base de leurs activités économiques. économique. Mais comme ils vivent dans une région qui est assujettie à toutes sortes de problèmes climatiques et autres, astronomiques aussi, là, je veux dire, bon, va dans le nord de la Norvège ou de la Suède, il y a des moments dans l'année où la nuit est très longue et c'est ça, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est là qu'on va commencer à réaliser qu'ils ont un très fort sentiment d'entraide entre les communautés. Donc, ce sont des clans avec des chefs de clans. Au départ, à un moment donné, ils vont se fédérer, il va y avoir des rois qui vont émerger là-dedans, mais au début, ce sont plus des chefs de clans, mais qui collaborent entre eux plutôt que de s'entre-déchirer parce qu'ils vivent les mêmes réalités. Et s'ils collaborent autant au niveau de la production agricole que de comment entretenir les marchés, toi, tu vas aller faire l'expédition en mer, moi, je vais m'occuper de vendre les produits ou des choses comme ça, ça assure une meilleure survie. Donc, la Scandinavie, quand même relativement de ce qu'on en sait, travaille en collaboration. Je ne dis pas unis à 100%, il doit y avoir des chicanes, c'est clair, hein? Mais il y a quand même une bonne forme de collaboration de ce côté-là. S'occuper des troupeaux aussi, parce que là, on va avoir besoin de laine, il faut s'habiller, il faut se chauffer et tout ça. Donc, ce sont des communautés agricoles avec des maisons. On en a reconstitué à Lens-aux-Meadows, à Terre-Neuve, pour montrer ce que c'est, mais ce sont des maisons qui sont très, très basses. Ça étonne toujours de voir que le mur n'est pas très haut et le toit, là, en espèce de paille et divers éléments végétaux compressés. Ça étonne toujours un peu. Pourquoi? Ben, il fait très froid. Donc, en ayant un plafond bas, en ayant une surface de mur qui n'est pas trop haute, ça fait en sorte que le feu chauffe vraiment l'intégralité de la maison. Plus le plafond est haut, plus la maison est large, ben là, c'est sûr que les feux ont plus de difficultés à réchauffer. Donc, c'est un peu la raison d'avoir des maisons aussi basses aussi pour les Vikings. Donc, vous pouvez aller voir là, du côté des reconstitutions, entre autres, de Lens-aux-Meadows. Ça donne une bonne idée de ce à quoi ça peut ressembler. Oui, ça peut ressembler à des petits villages que vous allez voir dans certaines séries un peu fantastiques là, qui imitent un
dans
peu...
Dans Le Seigneur des Anneaux.
Bon, est-ce que Game of Thrones a joué un peu? Ben, un petit peu cette carte-là aussi. Mais bon, dans la fameuse série Viking, qui, je ne veux pas trop entrer sur sa valeur historique, parce que ça reste un divertissement. Reste que ça, c'est quand même intéressant quand on les voit à l'intérieur avec les feux et tout ça, comment ils sont organisés. On le sent que le plafond est pas haut, là. On sent que les acteurs sont presque accroupis là, quand ils font leur scène et qu'ils discutent. Et ça rend ça très sombre parce que ça fait beaucoup de fumée. Donc, il y a tout ce contexte-là qu'on peut s'imaginer. Là. Souvent, on va faire sécher la viande à l'intérieur aussi ou les fumées. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas des environnements qui sont nécessairement, de notre point de vue actuel, nécessairement très propres ou très hygiéniques, mais ça permettait de survivre, par contre, à des hivers qui peuvent être vraiment très, très froids, par exemple. Donc, c'était la bonne stratégie. Là. Fait que, tu sais, ça te donne une idée.
Oui, 793 commencent les raids, ils continuent, puis ils vont de plus en plus loin, j'imagine?
Ben oui, ils vont aller de plus en plus loin. Donc, après Lindisfarne, c'est sûr aussi que là, on va réaliser que qu'est-ce qui leur permet de faire ces raids-là? Ben, c'est leur bateau. Donc, dans les descriptions suivantes, là, tu sais, qu'on va avoir, on va s'intéresser à, mais comment ils ont réussi ça? Comment ils font pour arriver là? Parce qu'après ça, ils vont monter en Angleterre, puis ils vont aller vraiment dans le nord, à la frontière avec l'Écosse, et c'est là qu'ils vont faire la conquête de ce qui est aujourd'hui le Yorkshire, entre autres. Le nord de l'Angleterre, pendant quand même, on pourrait dire 250 ans à peu près, va être viking, là. Et c'est ce qui va donner d'ailleurs beaucoup de mots de vocabulaire dans la langue anglaise qui sont d'origine viking.
Comme quoi?
Quand il y a des cas, knowing, knight, un chevalier, K-N-I-G-H, knowledge, awkward, A-W-K, A-K-W, tu sais, quand il y a des K, des W, souvent, il y a des racines vikings à ces mots-là dans la langue anglaise. Parce que c'est l'époque où il n'y a pas encore un royaume unifié, on a des Angles, on a des Saxons, et dans le Nord, on a...
Les Vikings!
Des Vikings! Fait que ça va avoir une grande influence sur la langue qui sera parlée en Angleterre par la suite. Fait qu'il y a quand même pas mal de mots de vocabulaire viking, en fait, dans la langue anglaise. Mais tu sais, awkward, là, c'est le meilleur là, pour vous en rappeler. Là. Ça, on a toujours de la misère à le prononcer, là, mais tu sais, c'est d'origine viking.
Oui, puis à l'écrire aussi. On dirait qu'il faut tout le temps que je réfléchisse quand vient le temps d'écrire awkward.
Fallait que je l'épelle, je dirais, mais attends une minute.
Pourquoi est-ce que, tu sais, au début, ils allaient juste faire des attaques, mais à quel moment ils ont décidé de coloniser? À quel moment ils ont décidé de s'installer? Et pourquoi ils ont décidé de s'installer?
Ben, c'est sûr qu'au début, ils vont rester proches. Donc, ils vont aller faire le nord de l'Angleterre, ils vont faire des attaques du côté de l'Écosse, de l'Irlande. Et là, on se rend compte qu'en Écosse, en Irlande, c'est pas tant qu'ils s'établissent, ils ont des petits comptoirs, mais ils font pas une conquête vraiment complète. Ils vont aller chercher quoi? Des esclaves. Alors, ils ont trouvé le moyen par leur bateau qui leur permettent d'aller loin, notamment sur les côtes de Turquie. Ils vont rentrer en contact avec les populations arabes qui, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'on veut commercer. Ils veulent des esclaves et des esclaves occidentaux, des belles filles blondes aux yeux bleus. C'est sûr que pour les Arabes, c'est très intéressant dans les harems et tout ça. Alors, les Vikings vont faire du commerce d'esclaves. Ils vont kidnapper beaucoup de gens en Irlande et en Écosse. À partir des années 800-900, là, ils vont commencer à être actifs de ce côté-là. Et tout ça est possible parce qu'ils améliorent constamment leurs bateaux. Alors, là, on réalise qu'il veut, entre autres, avec ce qu'on a trouvé comme bateau oui, il y a le navire d'Osberg qui est quand même très vieux, mais récemment, il y a un nouveau bateau qui a été trouvé, un bateau tombeau en Norvège. On réalise que ces bateaux-là, ben, tu sais, c'est des bateaux en chaîne, c'est des bateaux qui sont très légers, c'est des bateaux qui peuvent avoir de 13, mais on peut monter à 40, 50 rameurs, dépend de la taille de ces bateaux-là. Mais surtout, ils sont faits quand même assez minces pour fendre les vagues, et avec la puissance de rame, c'est ce qui leur permet d'être quand même assez rapide. Donc, c'est pour ça que je parle des FedEx d'Antiquité, c'est qu'au lieu d'arriver puis de foncer avec leur camion, ils foncent avec leur bateau puis ils sont capables d'aller rapidement pour faire des échanges commerciaux. Et là, ils vont commencer à vouloir aller ailleurs pour trouver des nouvelles ressources à commercer. C'est dans ce contexte-là qu'ils vont finir par aboutir du côté du Groenland, qu'ils vont aller en Islande surtout. Donc, l'Islande, elle va être colonisée plus tard. Et là, quand ils vont encore améliorer leur technique pour s'orienter en mer, ben là, ils vont risquer le tout pour le tout, après le Groenland, ben ce sera les côtes d'Amérique du Nord et ça va être Terre-Neuve. Fait que, ça, je te dirais que là, dans les années 900-1000, ça devient peut-être un petit peu plus intéressant là, de ce côté-là. On va avoir aussi, je te dirais, avec ce commerce-là, avec ces ressources-là, c'est sûr que là, on va chercher peut-être un peu plus à s'organiser pour être une meilleure puissance par rapport aux puissances européennes qui se mettent en place. Parce que tu vois, quand on arrive dans les années 800, ben là, on a un royaume en France qui n'existait pas vraiment, mais que là, qui est vraiment bien établi. C'est le royaume des Francs, c'est Charlemagne qui est au pouvoir. Charlemagne va les confronter, là.
Mais c'est ça que j'allais dire, ils doivent s'organiser à un moment donné, les autres peuples, pour les repousser puis aller les combattre.
Voilà, donc là, il y a des combats, pas toujours maritimes, mais quand même, on essaie de protéger les frontières de ces royaumes qui se mettent en place. Les anglo-saxons ne veulent pas qu'ils dépassent trop le nord de l'Angleterre non plus. Ça les force aussi à aller ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'ils se rendent en Islande. Et après ça, ben là, on va pousser du côté du Groenland et du côté de ce qu'ils appelaient le Vinland, mais qu'on suspecte qu'il est probablement Terre-Neuve. Mais ça, ça reste encore un peu flou, parce que une fois en Islande, là, on a des textes écrits qui sont les sagas islandaises ou les sagas du Nord. Qui nous donne des noms comme Éric le Rouge, qui est un des plus connus, ou le roi Canute. Donc là, on a des rois, en fait, qui se mettent en place, et on sait aussi que dans les années 900, en fait, de notre ère, à un moment donné, il y a un roi qui a réussi à dominer la Norvège, la Suède et le Danemark, et en faire un seul royaume unifié. Il s'appelle Harald Ier. Et Harald, ce qui est intéressant, c'est que récemment, on a trouvé une forteresse viking en Norvège, avec même une boîte à outils. C'est super rare. On voit le genre d'outils qu'ils ont utilisé pour monter les palissades en bois et tout ça. C'est quand même pas pire. Et quand on a daté ça, grâce au bois, au résidu organique du bois, on a réalisé qu'on était à l'époque d'Harald, qui était surnommé Harald à la dent bleue.
Oh, pourquoi?
C'est pas clair, en fait, de pourquoi il était surnommé Bluetooth, mais là, oups, je viens de dire quelque chose de fabuleux. Je viens de dire Bluetooth! Harald à la dent bleue, en fait, bon, est-ce que c'était justement parce qu'il était stratégique, ou bon, il y a beaucoup de théories sur l'origine de son nom, mais parce que c'était le premier à avoir fédéré la Norvège, la Suède et le Danemark sous une seule autorité, donc à avoir connecté les trois zones de la Scandinavie sous son autorité, c'est ce qui explique qu'on a utilisé ces initiales runiques, donc le H en rune et le B en rune, donc Harald Bluetooth, pour les fusionner ensemble, ce qui donne le symbole du Bluetooth sur vos appareils, parce que le Bluetooth permet de connecter les appareils entre eux.
Et tout ça, ça vient des Vikings!
Bingo!
Oh my God! Là, on dirait que je suis en train de chercher sur mon téléphone le signe Bluetooth pour aller voir.
Ben oui, mais là, après ça, tu verras que c'est en rune, le H de Harald et le fameux B, lui, on le voit mieux, qui ont fusionner l'un dans l'autre et ça donne le symbole du Bluetooth sur vos appareils. Alors, comme Harald à la dent bleue en est venu à la fin des années 900 à unifier les trois grandes régions de la Scandinavie sous une seule autorité royale viking, le Bluetooth vous permet de connecter vos appareils entre eux. Alors...
Good! Et ça, pour vrai, je suis genre, oh, wow! Tu sais que comme dans les trois prochaines semaines, toutes mes phrases vont commencer de même. Tu sais-tu d'où ça vient, Bluetooth?
Mais je vais t'avouer que quand je parle de ça en classe, ça trippe beaucoup, si vous me permettez l'expression.
Okay, pour vrai, si vous nous écoutez puis que vous venez d'apprendre cette information-là, venez le commenter parce que je veux me sentir moins seule.
Voilà. Fait que tu sais, ça bouge beaucoup. Quand on arrive dans les années 900-1000, là, on peut parler plus de royaume viking. Et c'est une époque, effectivement, où là, ça va plus se développer du côté de l'Islande et qu'on va commencer à faire cette espèce de voyage vers le fameux Vinland, où on va essayer d'arriver là, du côté de Terre-Neuve. On se rend compte aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il serait peut-être resté un petit peu plus longtemps qu'on pensait à Terre-Neuve, mais plutôt que de rester sur place, il venait faire des tours de temps en temps pour la pêche ou des choses comme ça. C'est des recherches qui sont en cours, là, donc il n'y a pas tant de données que ça, mais on suspecte que les Vikings seraient peut-être restés un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait estimé.
Mais qu'est-ce que ça veut dire un peu plus longtemps, genre 4 ans ou 100 ans?
Peut-être 200. Ils sont pas nécessairement fixés. Ils font plus des allers-retours ou viennent de temps en temps peut-être pour les contacts, là, pour la pêche ou des choses comme ça, mais c'est encore en cours d'étude tout ça, là.
Mais est-ce qu'ils étaient en contact avec les Autochtones? Est-ce qu'on sait un peu?
Très probablement, parce que les Basques aussi vont l'être, alors on suspecte, ben oui, très probablement, pour la pêche et tout ça, ils sont entrés en contact avec les Micmacs, ils sont très probablement entrés en contact avec les communautés autochtones qui étaient là, et peut-être même plus loin que ça. Tu peux t'établir à Terre-Neuve, mais avec les bateaux qu'il y avait, il n'y a rien qui les aurait empêchés de s'avancer en Atlantique pour, des fois, échanger ou commercer, autre. Ce qu'on se rend compte, toutefois, c'est que les produits commercés étaient peut-être moins intéressants, finalement, que ce qu'ils auraient voulu. Bon, est-ce que c'était le phoque? Qu'est-ce qu'ils cherchaient comme ressources, mais le Groenland, ça a été une colonie qui a été un petit peu plus intéressante.
Est-ce que c'est vrai que ça s'appelle Groenland parce que ça veut dire vert? J'avais comme un de mes profs qui nous avait déjà dit ça à un moment donné, Greenland, Groenland.
Oui, c'est supposé être une des origines du nom, mais le nom viking, je le sais pas, par exemple. Enfin, on n'est pas sûr du nom qu'ils ont donné à tout ça, parce que c'est ça qui est un peu flou. C'est que dans les sagas islandaises, ils vont parler du Vinland, donc les terres vikings, mais ils ne précisent pas où. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quitté, en fait, ils sont allés très loin. Fait que beaucoup de gens vont dire le Vinland, c'est l'Anse Meadows, c'est Terre-Neuve. D'autres vont dire, ben, c'est le Groenland. Ça peut être les deux, très possiblement. Mais du côté du Groenland, ben, c'est sûr que là, il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites parce que, comme je te disais, là, il y a une urgence, en fait, du côté du Groenland. Urgence climatique où là, on se rend compte, en fait, que, il s'était établi autour des années 1000 à peu près, de 1000 à 1500, ils vont être pas mal du côté du Groenland. C'est quand même 500 ans, donc c'est quand même bon. Sauf qu'on se rend compte pourquoi ils ont quitté, parce que ça a toujours été la question. C'est comme s'ils étaient partis soudainement, puis pouf, ils ont laissé ça là, puis sèche le Groenland, n'était pas intéressant. Et là, ce qu'on vient de réaliser, en fait, c'est que la terre était dure à cultiver. On a des vestiges de laiterie quand même du côté du Groenland, donc on sait qu'il y avait des pâturages, des troupeaux pour le cuir, pour la viande, pour les produits laitiers et tout ça, parce que c'est des laiteries, ça veut dire qu'on utilise le lait, mais on réalise qu'avec les fouilles qui ont été faites récemment à cause de la fonte du pergélisol, et comme je te disais, il y avait urgence, on réalise qu'ils ont peut-être été là plus pour la chasse aux morses et aux phoques, ce qui serait aussi un de leurs intérêts quand ils sont venus du côté de Terre-Neuve, qui aurait été quand même, les produits marins, peut-être 80% de leur alimentation, ce qui est quand même beaucoup, là, je te dirais, là, 80% de ton alimentation, mais les changements climatiques rendus vers 1500, déjà au 14e siècle, on a une période de refroidissement. Et ça semble avoir joué sur le déplacement des phoques, le déplacement, en fait, du morse aussi. Il y en avait de moins en moins le long des côtes du Groenland. Donc, le réchauffement climatique pourrait être responsable, en fait, de l'abandon du Groenland autour des années 1500 maximum là, par les Vikings, qui vont plus se concentrer en Islande et en Scandinavie. Ils vont être chassés en 1066 d'Angleterre par un descendant viking. Quand même, on parle des Normands, mais c'est Guillaume le Conquérant qui fait l'unification de l'Angleterre. Donc là, c'est la fin des Vikings en Angleterre. Mais bon, c'est sûr qu'ailleurs, leur histoire va durer un petit peu plus longtemps.
Mais comment ça finit, les Vikings?
Ils se mélangent. Ils finissent par se mélanger avec les populations locales. C'est sûr qu'en Islande, ils ont une forte descendance viking quand même. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a des contacts qui se font aussi avec la Norvège, la Scandinavie. Tout ça finit par se mélanger, je te dirais. Ou bon, ben, t'as des rois que nous, on va appeler des rois européens, mais qui dans les faits sont des descendants de Vikings aussi. C'est juste qu'au fil du temps, comme c'est maintenant rendu des monarchies, dans certains secteurs, ils vont être christianisés. Donc, ils ne garderont plus leur tradition, je te dirais, ou leur mythologie, contrairement à d'autres régions. À un moment donné, ils finissent par se mélanger aux cultures qui sont là, puis ça fait une fusion, en fait. C'est la fusion des cultures qui explique que les Vikings, pas tant disparaissent, mais se change.
Mais mettons, vers quelle année on estime les dernières tribus, les derniers concentrés, mettons, là?
On peut dire que les années 1400-1500, c'est pas mal la fin, là. Mais tu sais, quand on parle de la grande époque viking ou des grandes armées vikings aussi, où on a essayé peut-être de faire des conquêtes et tout ça, c'est sûr que les années 800-1000, c'est le gros morceau pour l'expansion viking. Et après ça, lentement, mais sûrement, parce qu'on crée des royaumes avec Harald, parce qu'on va voir Canute et plein de rois un peu partout, ben c'est sûr que ça devient des états plus modernisés qui fonctionnent autrement. Et le commerce d'ailleurs d'esclaves va commencer à diminuer et tout ça. Mais on réalise qu'ils allaient très loin par les tombeaux. Quand on trouve des bateaux tombeaux vikings dans lesquels il y a des guerriers d'inhumains...
C'est quoi un bateau tombeau? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu?
C'est qu'on prend le bateau. Imagine un bateau de vraiment des mètres et des mètres, vingtaine de mètres de long pour certains. On l'enterre littéralement et le guerrier ou la guerrière dans certains cas, où des fois plus qu'une personne sont inhumés avec des chevaux qui sont sacrifiés parce que c'est le symbole du guerrier. Ils sont enterrés avec leur casque, leur armure, avec tous les produits de luxe qu'ils ont peut-être commercé ou qu'ils ont gardé de leur combat. Et ils partent avec ça vers on va dire un paradis viking qui est le Valhalla, et c'est le bateau qui est le moyen de transport pour pouvoir le faire. Mais tu vois, chez les anglo-saxons, on a quelque chose de similaire avec le trésor de Sutton Hoo, qui est un trésor pré-viking, qui est un trésor anglo-saxon. Si vous avez vu le film The Dig sur Netflix, un rare film d'archéologie qui est sorti l'année passée avec Ralph Fiennes, ça raconte un petit peu tout ça. C'est sûr que c'est un bateau fantôme, celui-là. On voyait la trace du bateau, on avait les rivets, mais il n'y avait plus le bois. Alors que le navire d'Osberg, qui est un des mieux préservés, un des mieux connu, qui était à Oslo, ben là, ça permet, surtout avec les restaurations et tout ça, d'avoir une idée de ce type de bateau. Donc, on prend un vrai bateau que souvent navigué et on l'enterre et le guerrier part avec ça et avec toutes ses richesses. Donc ça, c'est des tombeaux qui sont vraiment fabuleux quand on en trouve un. En Norvège, récemment, il y a 2-3 ans, avec la technologie LIDAR, donc la télédétection par laser, on a vu l'empreinte d'un bateau comme ça et là, ben les fouilles ont été réalisées parce qu'ils ont très vite vu qu'aussitôt qu'ils ont publié qu'ils avaient trouvé ça, tout le monde cherchait le bateau pour avec des détecteurs de métaux dans l'espoir de devancer les archéologues. Donc, les fouilles ont été faites très vite. Malheureusement, le bateau avait pourri, donc ils n'ont pas pu sauver, avoir accès au bateau, mais la forme est encore là. Donc, ils sortent les objets. Dans ces tombeaux-là, souvent, on a des statues de Bouddha sur du parchemin, des textes écrits en arabe. Ça montre, en fait, parce que par les Arabes, ils ont un contact avec la route de la soie. Et donc, les Arabes, eux, avaient un contact avec la Chine, avec l'Asie et tout ça. Donc, c'est vraiment fascinant de voir tout ce qu'ils ont pu échanger et commercer. Quand tu trouves une statue de Bouddha dans un tombeau viking, je veux dire, Bouddha était clairement pas connu en Occident à ce moment-là. Là. Eux devaient peut-être même pas réaliser ce que c'était. Mais tu sais, c'est quand même assez spectaculaire. Donc ça fait partie. Quand on trouve quelque chose comme ça, ça nous aide vraiment à comprendre non seulement comment les bateaux étaient faits, mais ça nous aide à comprendre aussi la richesse de certains chefs de clan, de certains guerriers. Mais tu vois, le navire d'Osberg, qui est un des plus connus, qui avait été trouvé au tournant du 20e siècle en Norvège, c'était deux femmes qui était à l'intérieur.
Je voulais ouvrir la porte des guerrières vikings parce que t'en as parlé un petit peu, mais c'est récent quand même là, qu'on a la confirmation qu'il y avait des femmes guerrières.
Oui. Là, la série viking est peut-être précurseur. Là-dessus, elle l'a fait avant que les découvertes sortent. En fait, c'est pas vrai. Le navire d'Osberg, on savait qu'on avait deux femmes à l'intérieur, mais elles n'avaient pas d'armes avec elles. Donc, on n'avait jamais supposé qu'elles étaient des guerrières, mais peut-être plus des chefs de clan importantes. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que présentement, il y a des chercheurs et des chercheuses, et il y en a une qui vient de faire une sortie récemment qui a dit, écoutez, c'est pas parce qu'on n'a pas de textes qui parlent tant que ça des femmes qu'on n'est pas capable de les trouver, en fait, dans l'histoire viking. Qui gère les marchés sur place? Qui s'occupe des domaines agricoles quand les hommes partent à la guerre, au commerce et tout ça? Ce sont les femmes. Les chefs d'entreprise des vikings, ce sont les femmes. Donc, c'est une place qui est quand même assez importante. Mais ce qui est intéressant, c'est 2017. Je dirais que c'est une année là, boum, boum, que vous pouvez mettre dans vos registres, dans vos archives. En 2017, on a fait des analyses anthropologiques et génétiques sur un squelette qui avait été découvert en Suède, OK? Il avait été découvert à la fin du 19e siècle. C'est un guerrier inhumé avec des épées, des flèches, des chevaux sacrifiés, tout le kit, là. Tu sais, je veux dire, t'as vraiment le tombeau parfait. Et il avait dit, ben, c'est sûr que c'est un guerrier, c'est un homme, regarde tout ce que là. Le navire d'Osberg, les femmes n'avaient pas d'armes avec elles, comme je te disais. Et là, dans les années 70, il y a des anthropologues qui avaient regardé les ossements, puis ils avaient regardé le bassin, tu sais, puis ils étaient comme... bassin de femmes, ça. Mais là, quand il avait dit ça, personne n'y croyait. On pensait que c'était peut-être une erreur ou autre. Puis on avait laissé ça sur la glace parce que dans les années 70, dire que c'était une femme guerrière, on n'en avait jamais trouvé. On n'a aucune mention dans les textes. C'est ça, on se basait tellement sur les rapports des textes anglais, chrétiens, que l'idée d'une femme guerrière, s'ils n'en parlent pas, c'est que ça n'a pas existé. T'sais. Ça a un peu été ça le problème. Donc, en 2017, il y a des équipes qui ont décidé de reprendre les études parce que ça énervait vraiment ce bassin qui ressemblait à un bassin de femmes. Il y a quand même une bonne différence du point de vue des eaux. Et là, ils ont fait des analyses d'ADN. C'est ça, en fait, qui est en train de changer les choses. C'est que maintenant, avec les analyses d'ADN, on est capable de pouvoir confirmer beaucoup plus de choses. Et quand ils ont fait les analyses d'ADN, surprise! C'était une femme. C'est venu donc montrer qu'un des plus beaux tombeaux de guerriers jamais découverts en Suède était le tombeau d'une guerrière. Et toujours en Suède, il y a un autre tombeau de femme qui avait été découvert où son squelette, son crâne avait des blessures pas possibles. Il y avait des blessures qui étaient guéries. Ça veut dire qu'il y a des blessures dont
elle avait survécu.
Elle avait survécu, donc au front, là, tu sais. Elle avait reçu une hache dans le front, puis elle a survécu à ça. Et ils ont essayé de faire une reconstitution du visage en fonction des blessures qu'elle avait pour montrer à quoi elle ressemblait, cette guerrière-là, pour dire que des coups, elle en a mangé plusieurs. Est-ce que ça veut dire qu'elle allait au combat ou est-ce que ces femmes-là sont mortes en protégeant les villages? C'est la question pour laquelle on n'a pas de réponse. Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte ces femmes-là se battent. Est-ce qu'elles font partie des raids? Personne n'en parle dans les textes, c'est vrai. On ne dit pas qu'il y a une femme parmi eux.
Mais en même temps, pendant un raid, peut-être que t'as pas le temps, t'sais, s'ils sont tous habillés pareil, si tout le monde crie, s'il y a des coups qui se donnent, t'sais, ça se peut que tu remarques pas la madame, là.
Oui, puis tu sais, de la manière qu'elle va être habillée avec son armure et tout ça, bon, homme ou femme, tu verras peut-être pas la différence. Ça, c'est une des explications. L'autre explication serait aussi que comme ce sont les femmes qui gèrent les marchés, que ce sont les femmes qui gèrent les domaines agricoles, elles vont protéger en fait les biens des Vikings pendant que beaucoup d'hommes sont souvent en train de faire le commerce sur mer ou en train de faire les raids. Donc, elles peuvent aussi mourir en défendant un village, mais c'est tout aussi honorable que de se battre, d'aller faire un raid, en fait. Mais on ne le sait pas, parce que, bon, les os ont une limite, et l'ADN a une limite. Est-ce que ça peut nous raconter là-dessus? Mais reste que on est en train, je dirais que la suite dans les études vikings, dans les livres sur les vikings, ce sera d'essayer de donner une place et une voix à ces femmes-là, même si, du point de vue des données historiques et archéologiques, c'est très ténu. On n'en a pas tant que ça. Mais c'est d'essayer quand même de faire un effort pour mieux illustrer le rôle majeur, en fait, le rôle économique, le rôle de gestionnaire que ces femmes-là ont eu. Donc, je dirais que c'est vers ça qu'on s'en va, en fait, avec les Vikings. J'ai-tu réussi à t'aider un peu?
Ben écoute, moi j'avais trouvé ça très complet. J'allais te demander si t'as d'autres choses à ajouter sur les Vikings. Là, je le sais qu'on pourrait ajouter un million d'autres choses, là. On pourrait ouvrir toutes les portes possibles et inimaginables. Mais en terminant, en fait, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui serait fabuleux et incroyable à découvrir au niveau des Vikings?
Il y aurait plein de choses. Comme je te dis, on connaît pas si bien que ça leur organisation sociale. Fait que c'est sûr que si on pouvait trouver, mettons, dans une bibliothèque en Angleterre, un texte, un moine qui aurait copié un texte viking, de runes viking, mais qui l'aurait traduit en anglais, caché dans un vieux livre. Tu sais, des fois, ça arrive. Hein? On a trouvé récemment des fragments de la légende arthurienne qu'on ne connaissait même pas, cachés dans une couverture de livre parce qu'il était plus bon, puis on s'en est servi pour faire du cartonnage. Tu sais, des fois, il y a des choses comme ça.
Des petits miracles.
Des petits miracles. C'est sûr que des sources écrites où on aurait peut-être traduit ou transcrit à l'écrit certaines légendes orales ou certains propos de vikings, ce serait vraiment trippant. Ça nous aiderait beaucoup parce que les sagas islandaises ont leurs défauts, ça reste un peu légendaire. C'est des sagas, c'est très mythologique. C'est sûr qu'il faut en prendre et qu'il faut en laisser. Une des découvertes qui a été faite, mais sur lesquelles on pourrait avoir plus d'informations, c'est que ce que les Anglais disaient, c'est qu'ils s'orientaient en mer pour aller aussi loin avec ce qu'ils appelaient une pierre solaire. Donc, une espèce de pierre qui leur permettait de refléter la lumière du soleil pour comme s'orienter ou la lumière de la lune la nuit. Et il y a un cristal qui a été découvert il y a de ça peut-être, je te dirais, 5-6 ans, qui laisse penser que c'était peut-être du quartz qui était utilisé pour refléter comme ça la lumière du soleil ou de la lune pour aider à s'orienter en mer. Ça, tu vois, c'est des recherches qui sont en cours, mais sur lesquelles on n'a pas encore tant d'informations que ça. Parce que pour se rendre jusqu'aux côtes de Terre-Neuve et y aller plus d'une fois, ils étaient vraiment bons là, pour l'orientation en mer, bien avant qu'on arrive avec l'astrolabe et le sextant, puis les outils qu'on va inventer à la Renaissance qui vont permettre les grandes traversées puis les, la découverte, entre guillemets, là, de l'Amérique, là, dans ce contexte-là. L'autre chose qui serait intéressante à découvrir, qui ferait vraiment triper, je te dirais que ce serait de trouver une maison tellement bien préservée qu'on aurait une idée du quotidien aussi, comment c'était fait à l'intérieur et tout ça. Tu sais, mettons, toute la, il y a eu un éboulement là, d'une montagne, la maison est complètement ensevelie, il n'y a pas d'air là-dedans. Puis là, on voit vraiment l'âtre pour le feu, puis on trouve des objets du quotidien pour faire la cuisine, puis qui n'ont pas été décomposés parce que c'était peut-être en bois. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que pour vous, vous dites, ah, oh, c'est pas en mort, c'est pas intéressant, mais pour les historiens, ce serait le trip du trip. Là, tu sais, c'est le genre de choses qu'on pourrait peut-être un jour espérer, ne sait-on jamais. Ou trouver un navire, non pas un navire tombeau cette fois-ci, mais un navire commercial dans les cimetières d'épaves qu'on a un peu partout, parce que les côtes de Turquie présentement, on a découvert là un cimetière d'épaves gigantesque qui est toujours sous-fouille, puis ça va être sous-fouille pendant longtemps parce que ça prend des robots pour aller là-dessus et tout ça. Mais tu vois, on a découvert une épave minoenne, des crétois. On n'avait pas de bateau crétois qui avait survécu. Et là, il y en a une qui a été découverte, puis on a fait « Yes, enfin! » Puis ça nous prouve que les Minoens ont commercé jusqu'en Turquie, tout ça. Ne sait-on jamais qu'on va peut-être identifier un navire viking là-dedans. Ce serait vraiment cool.
Ben on vous le souhaite! Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur les Vikings? Ou t'as chaud toi aussi, hein?
j'ai chaud moi aussi, je te dirais non.
Je trouve qu'on a quand même une bonne base là pour après ça aller fouiller dans les époques qui nous intéressent. Moi j'avais lu, je viens de me rappeler de ça pendant qu'on jasait, un roman qui s'appelle La saga des Vikings. Et j'ai juste lu le premier tome à date, mais c'était vraiment très bon. Puis il y a beaucoup de choses qui se recoupent dans ce que tu me disais, la saga des Vikings. Donc, si jamais ça vous tente, ce sera ma recommandation, moi qui ne savais rien il y a 45 minutes.
Bon, là, maintenant, tu vas pouvoir raconter ça à tes enfants, puis après les avoir déguisés en Harry Potter, tu vas les déguiser en Vikings.
Ben, écoute, Evelyne, tu savais-tu d'où ça vient, Bluetooth?
Jamais entendu parler de ça! Mais tu sais, tape Harald Bluetooth, puis mettons Rune, puis tu vas le voir, là. Ils vont te mettre les deux lettres, puis ils vont te montrer la fusion des deux lettres.
C'est sûr que je m'en vais faire ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Evelyne, merci énormément de nous avoir partagé ton savoir, encore une fois.
Ça m'a fait plaisir!
Et merci à vous, à la maison, de nous avoir écoutés, et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!